Je vous rappelle le nouveau format. On a voulu une fois par mois maintenant faire intervenir des intervenants extérieurs pour présenter des points divers et variés, et notamment l'intervention de ce mois-ci. C'est un sujet qui ne fait pas partie des résidences, mais qui nous semblait important à couvrir, à savoir les projets pédagogiques que vous menez au sein des universités. À destination de Wikipédia, soit juste pour sensibiliser aux forces et aux faiblesses de Wikipédia, soit s'en servir comme un peu comme outil sexy pour aborder des questions d'éducation aux médias à l'information, soit carrément pour essayer de le convertir de lecteur à contributeur actif des lecteurs et des étudiants. Un peu mes... Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Alexandre Roquet parmi nous, hein, qui a les deux casquettes, donc professeur à l'Université de Lorraine et Wikimédien, qui nous va nous présenter un peu toutes les travaux qu'il fait. Et donc oui, on a... Ça permet de se faire se rencontrer les Lorrains. Donc, je te laisse la parole si tu veux te présenter brièvement, Alexandre.
Unmute. Ouais, bah, je peux dire en quelques mots qui je suis. Il se trouve que je suis historien des sciences comme discipline, ce qui est souvent les gens qui s'intéressent à Wikipédia en tant qu'objet d'analyse, ils sont plutôt sociologues ou ce que nous on appelle l'infocom. Voilà, moi je suis historien des sciences, c'est une communauté qui n'est pas exactement la même, mais qui a beaucoup de points communs avec les deux que je viens de citer. Et en fait, ma spécialité en tant que chercheur, c'est l'histoire du software en sciences. Voilà, donc c'est une période qui va grosso modo des années 60 à nos jours. Et voilà, c'est une période pour laquelle les enjeux autour du logiciel libre ont été importants. Ils sont toujours en quelque sorte, depuis les années 80, disons, pour faire grosso modo. Et évidemment, c'est un sujet qui est un peu connexe, et la question de la science ouverte, qui prend de plus en plus d'ampleur dans ce contexte, bon, elle a des liens avec la question du logiciel libre. Et donc Wikipédia, c'est intéressant pour moi. Ah, je dirais, ça fait une petite dizaine d'années que je m'y intéresse. Comme tu disais, je suis un Wikimédia, bon, modeste, hein, en nombre d'édits. Comment dire, je ne suis pas un caou, comme on dit, mais je ne suis pas non plus un caou, c'est un compte à usage unique, hein, c'est ça? Bon, voilà, je ne suis pas non plus un admin ou un ex-admin comme pouvait l'être, j'ai un peu perdu sa trace, mais comment il s'appelait, Pierre-Carl Langlais, par exemple. Je suis modeste, Wikipédia. Voilà, mais puisqu'on parle d'enseignement et pas exactement de recherche, donc ce qui est intéressant pour moi dans Wikipédia, c'est que c'est, voilà, grosso modo, la seule émanation des principes du libre que le grand public connaît. Voilà, je suis pas le seul premier à avoir dire ça. Hein. Il y a quelque chose dans Wikipédia qui est la traduction de principes de logiciel libre dans le fait de créer une encyclopédie, donc dans quelque chose qui a priori est pas du logiciel au point de vue de l'activité de cœur, mais qui en fait est lié. Voilà. Et donc, pour moi, enseigner Wikipédia, c'est une façon d'enseigner un monde qui est différent. Et bon, voilà, je dis souvent ça à chaque fois que je donne chacune de mes introductions, c'est un monde que tout le monde connaît, mais que tout le monde connaît mal. Voilà, et comme par ailleurs, le but de ce monde, c'est de produire de la connaissance, une encyclopédie, c'est ça, quoi. Il y a aussi un sujet qui n'est pas complètement étranger pour un historien des sciences. Et que, par exemple, qu'est-ce que c'est que la neutralité, qu'est-ce que c'est que la vérifiabilité, la notoriété, qu'est-ce que c'est que le rapport aux sources? C'est deux notions qui sont wikipédiennes, qui sont complètement propres à Wikipédia et qui sont intéressantes pour un historien des sciences. Voilà. Bah, donc, c'est ça l'origine de mon intérêt. Ensuite, voilà, ouais, vas-y.
Me permet en élaborant ce petit café, je suis retombé un peu sur différents textes que tu as écrits. Notamment, on peut retrouver certains de tes travaux dans les deux fameux livres publiés aux presses de Nanterre, hein, sous la direction de Lionel Barbe et Martha Severo pour l'un, et dans l'autre, c'est Lionel Barbe, Louise Merzeau et Valérie Schaeffer pour l'autre. Et sinon, il y a une tribune, article qui sur différents sites. Là, je publie la version qui est sur The Conversation. Vous trouvez aussi sur le site de Wikimedia France et sur d'autres sites. Ça date de 2016, il me semble, où tu fais un plaidoyer pour enseigner Wikipédia et notamment à l'université. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignement de Wikipédia qui est fait au collège et au lycée, un peu pour encadrer cette utilisation par les jeunes générations. Mais c'est vrai qu'il y a des initiatives aussi au niveau universitaire mais qui sont peut-être moins connues. Il y a moins d'articles là-dessus. Est-ce que tu peux pour revenir sur ce plaidoyer, pourquoi tu as voulu le faire à ce moment-là, et est-ce qu'il est encore d'actualité? À ton avis, de nos jours, en 2023, donc déjà il y a 7 ans.
Maintenant que tu rementionnes les dates de ces articles, c'est quelque chose qui, en grosso modo, on pourrait dire que mon initiative, elle est liée en fait à l'époque au Wikimook, je dirais. Je me souviens plus exactement si ça colle bien au niveau des dates, mais il me semble que dans l'idée de tous les gens de l'époque qui s'étaient intéressés à imaginer un Wiki. Bon, c'était la mode des MOOC, le début des années 2010, entre début et milieu des années 2010. Et c'était, je trouvais, une super idée, même si les MOOC, par ailleurs, on pourrait les critiquer sur plein d'aspects, mais c'était une super idée, qui était une idée en plus grassroots, quoi, qui venait de la communauté. Il y avait Jules, des tas d'autres. Bon, je pas, pardon, il y avait, si j'en cite un et que je cite pas les autres, c'est un peu. Mais bon, voilà, il y avait quelque chose qui venait de la communauté et à laquelle, en tant que Wikimédien, du coup, je m'étais essayé de me greffer en disant, bon, voilà, il y a quelque chose à faire là-dedans. Et en particulier, donc, j'avais fait des vidéos, mais aussi, du coup, un texte et puis une idée pédagogique qui allait autour, dont le but, même la mise en scène, était censée coller à celle du Wikimook. Enfin, les quelques vidéos que j'ai faites, avec le format quelques minutes, juste parler devant un fond noir, etc., c'était pour coller à la fois, bon, pas seulement esthétiquement, mais à l'idée de ce que. Finalement, elles n'ont pas été retenues, en fait, mais ça m'a permis de transformer ça en du matériel. Pour moi, quoi, au point de vue, bon, voilà, il y a quelque chose à faire d'un point de vue pédagogique avec ça, et du coup, si je me souviens bien, j'ai fait une vidéo qui expliquait la démarche, voilà, vidéo et article dans The Conversation, qui à l'époque était un média qui était réceptif aux idées que j'écrivais. Enfin, qui le faisait encore. Hein, mais. Donc, il y avait une idée pédagogique qui était née de ça. Et mon idée, comme je disais quand je me suis présenté, il y a pour moi dans Wikipédia un monde différent qu'il est intéressant d'essayer de comprendre. Et du coup, peut-être contrairement à d'autres initiatives pédagogiques, mon but n'est pas tellement de contribuer à Wikipédia, en fait, dans mon cours, même si c'est un side effect qui est à la fois bienvenu et qui du coup essaye de contribuer un petit peu en tant que voilà. Mais mon but n'est pas que les étudiants et étudiantes apprennent à contribuer. C'est pas mon but premier, c'est plutôt qu'ils essayent de comprendre comment ça marche. Et comprendre comment ça marche, bon, mon point principal, c'est qu'on ne peut pas le faire sans effectivement essayer de plonger dedans. Parce que ça veut dire essayer d'écrire dedans, mais du coup, écrire, ça veut dire aussi pénétrer dans, ah là, c'est un aspect sociologique, quoi, dans une communauté qui a ses propres normes, tout ça, qui ne sont pas les mêmes que celles du monde. Bon, là, j'ai une vision binaire, le monde de Wikipédia, le reste du monde, mais qui est pas, en tout cas, qui est clairement pas la même que le reste d'Internet. Là, il y a quelque chose de vraiment fort là-dedans. Et c'est pas si facile que ça, parce que du coup, forcément, quand on est nouveau et qu'on essaye, on fait beaucoup d'erreurs. En particulier, l'erreur gravissime du point de vue du Wikipédia, c'est le copy-view. Et c'est un truc qui est, comment dire, je marche un peu sur des œufs. Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais je me souviens qu'à une époque, il y avait un enseignant qui avait été banni de Wikipédia parce que lui avait rien fait de répréhensible, mais il y avait trop de copy-view comment dire, dans ce que ces étudiants faisaient, et que du coup, bah, c'est vrai que d'un point de vue de Wikipédia, ça fait du boulot en plus, si vous voulez, pour les patrouilleurs, la communauté en général, quoi. Donc, il y a un côté, c'est pas si facile que ça. Je voulais dire un dernier truc à propos de ça. Mais oui, voilà, en ce sens, c'est différent, enfin, en tout cas, je ne me sentirais pas de faire un cours où on apprend à écrire dans un brouillon, parce que c'est souvent ce que recommandent les Wikipédiens, quoi. Enfin, les Wikipédiens qui en ont marre de devoir corriger des erreurs de noobs. Et il y a des tas de projets pédagogiques qui sont basés là-dessus, comment dire, de faire quelque chose d'un peu tutoré, où les gens écrivent dans un brouillon. Et supervisé par quelqu'un qui s'y connaît dans la communauté et qui dit non, il ne faut pas faire ça parce que ça va mal passer. Et que dans un deuxième temps, on publie le brouillon. Mais il y a un côté, parce qu'il ne me va pas, moi, pédagogiquement, et même si c'est parfaitement respectable par ailleurs comme idée, c'est que du coup, on établit une barrière entre le monde de Wikipédia et l'étudiant qui contribue. Et que du coup, l'étudiant ou l'étudiant en question ne se frotte pas au monde. Voilà. Grosso modo, c'est ça ce qui caractérise mon cours.
Oui, c'est vrai que cette question se pose, notamment s'est posée pour Louis concours lycéen. L'inconvénient de les sortir un peu les extraits de Wikipédia, donc passer par le brouillon, enlève toute la partie communautaire. Et du coup, dans le cadre du Wiki concours lycéen, il y avait comme critère un peu obligatoire de passer par les lieux de discussion, soit par le forum principal qui s'appelle le bistrot, soit par d'autres forums. Voilà, c'était un palliatif. Mais c'est vrai que voilà, y a pas vraiment de solution idéale. Il y en a d'autres qui conseillent plutôt d'utiliser d'autres wikis comme Wikidia ou le Dico des ados c'est l'équivalent du Wiktionnaire. C'est vrai que c'est un gros défi sur Wikipédia. Wikipédia n'est pas en soi une plateforme pédagogique. C'est en production, hein, c'est une encyclopédie en production. Dès qu'on appuie sur publier, c'est instantanément mis en ligne et Wikipédia est quand même un peu consulté. En tout cas, certains articles sont pas mal consultés. Donc, la modération du contenu, voilà, est aussi un gros défi, hein, pour rappeler les ordres de grandeur, hein. Chaque jour, il y a 350 articles qui sont créés. En fait, il y en a 600 et la moitié est dézinguée dans la journée. Et c'est 30 000 modifications. Alors, il n'y a pas que des articles, hein, qui sont dans ces 30 000, aussi des pages de discussion, des forums et tout ça. Mais voilà, c'est aussi à modérer, hein. Il peut y avoir des insultes en page de discussion ou des contenus illicites. Donc, ça donne aussi un ordre de grandeur hein, de cette usine à gaz, et qui en même temps est assez petite. Hein, je sais que le cours lycéen hein, qui regroupait, je crois, je crois 50 classes ou 100 classes, enfin, ça reste modeste, mais arrivait quand même à déborder les Wikipédiens. Il y avait trop d'articles à relire, à vérifier, donc même des petits. De grandeur, et on ne parle pas là d'une université comme on peut avoir. Je vois qu'il y a mon collègue Sébastien Perard de l'université de Bordeaux. Voilà, si on veut former les premières années à Wikipédia massivement, là, on parle de plusieurs milliers d'un seul coup d'élèves. Donc, c'est un gros défi aussi à les faire débarquer, en tout cas massivement sur Wikipédia, comme si c'est l'objectif. Est-ce qu'il y a déjà des questions de la salle ou des interventions? N'hésitez pas, hein, c'est pas, je monopolise pas la
Est-ce que vous
parole.
m'entendez? Est-ce que vous
Oui.
m'entendez? Ok. Donc moi, je rebondis sur ce que vient de dire Alexandre. Très intéressant parce que justement, en étant jeune Wikimédia en résidence, j'ai mis en place des ateliers. Je passe par le brouillon. Je passe exactement cette. J'ai le mon ma formation type, c'est une formation de 3 heures. Donc en 3 heures, la première heure, c'est du théorique, c'est les bases, aussi le voir le profil des apprenants pour saisir un petit peu à quel public j'ai affaire, changer un petit peu la perspective qu'ils ont sur Wikipédia. Ce n'est pas une encyclopédie uniforme, mais c'est une encyclopédie extrêmement hétérogène. Donc il faut examiner chaque article avec des niveaux de qualité différents, etc. Et ça nous fait voir les bases, le cycle d'évolution d'un article. Voilà, ça c'est la première heure théorique. Les deux heures suivantes, la deuxième heure, je les mets sur le brouillon. Enfin, je leur montre. Entre le brouillon, je le pilote sur le brouillon. Et la troisième heure, c'est vraiment eux qui essayent d'enrichir leur brouillon au maximum. Le problème que j'ai avec ce format-là, c'est effectivement, je le fais généralement en 3 heures. Il y a aussi une version en 6 heures où donc on a 3 heures de plus pour enrichir vraiment le brouillon et quasiment créer un petit article. Le problème que j'ai, c'est que j'ai très peu de rétention. C'est-à-dire que, et je pense que c'est avec ce que dit Alexandre. Il n'y a pas le facteur communautaire. J'ai beau en parler, j'ai beau leur dire que c'est une communauté qui a de la co-rédaction et qui a ce genre de choses, ils ne la voient pas, ils ne la touchent pas. Donc, ils ont fini leur brouillon, ils rentrent chez eux, ils ne reviennent plus. Et moi, ça me met un peu mal à l'aise parce que justement, ils n'ont pas touché à l'espace encyclopédique. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme si on disait à un jeune de 18 ans qui doit travailler son permis, qui doit préparer son code, de conduire uniquement des voitures en plastique sur le parking. C'est pas suffisant. Donc ça me gêne un petit peu également. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui avance également cette position. Donc ça m'intéresse beaucoup. Voilà, je voulais juste faire un feedback pour l'implémentation inverse, foncer sur le brouillon et effectivement le ressenti de limitation que j'ai par rapport à cette expérience.
Merci
Je laisse la
Hugo.
parole à
Sébastien.
Oui, merci beaucoup pour cette intervention. C'est vraiment super intéressant. Côté Université de Bordeaux, on a plusieurs initiatives pédagogiques autour de Wikipédia et justement, on se pose un peu les mêmes questions. Pour compléter notre approche, en fait, ce qui se dessine, c'est qu'effectivement, pour la contribution à proprement parler, on a une forme de plafond de verre, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un certain nombre d'heures de cours pour une activité pédagogique donnée, pour pouvoir faire, entre guillemets, de la contribution en réel suffisamment conséquente. L'expérience pour le moment, c'est que, en fait, en dessous de. Ouais, pour ce qu'on a déjà testé, on n'arrive pas à faire de contribution vraiment dans le monde, entre guillemets, dans le monde réel, en dessous de 8 heures de cours, quoi. Pour le reste, en fait, on a beaucoup de ce qu'on essaye de pousser le plus possible, c'est de faire de l'évaluation de qualité commentée, j'allais dire, autour d'un article Wikipédia pour leur donner, en fait, on leur donne une grille critériée qu'on est en train de travailler justement pour dire, bah, Wikipédia, la qualité, elle est hétérogène, mais au moins elle est explicite et du coup elle permet pour quelqu'un qui ne connaît pas le sujet d'avoir un indice que. A priori, il peut faire plus ou moins confiance à l'article. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, en fait, Alexandre, Hugo, ce que moi, de mon expérience, la pratique que j'ai tendance à faire, c'est dès qu'on a suffisamment de temps, on commence par le brouillon. Mais par contre, il faut qu'il y ait plusieurs séances, j'allais dire, quitte à ce que ce soit des séances moins importantes, mais espacées dans le temps, où en gros, il y a une première séance où il s'approprie le truc. Et où on donne des devoirs à la maison, j'allais dire, ils font le brouillon. Et ensuite, du coup, on a une étape où ils passent dans le grand bain, j'allais dire quasiment en séance, où on leur reprécise tous les, j'allais dire, les points d'attention avant de publier. Et leur dire, voilà ce qui risque de se passer, voilà comment il faut que vous vous comportiez. En gros, on parle pas mal de. On est plus sur des notions de communauté et de savoir-être, pour utiliser un mot à la mode, mais au final, de leur dire, bah, voilà, si quelqu'un vous tombe dessus en vous annulant une modification, faut pas s'énerver, faut regarder ce qu'il vous propose, et faut toujours partir du principe que le contributeur est de bonne foi, et que, voilà, et donc, en gros, on a cette sorte de... Et effectivement, la même question que je me pose, c'est... On n'arrive pas à faire trop de contributions aux étudiants en dessous d'un certain nombre d'heures de cours et en dessous d'un certain nombre de séances, j'allais dire. Parce qu'il faut du temps entre les, il faut du temps entre guillemets de digestion des informations pour pouvoir passer. C'est un peu comme si on disait, il y a effectivement, pour reprendre l'image que tu as donnée, Hugo, c'est un peu comme si on leur donne une heure à leur donner les principes du code de la route. Ensuite, une heure où ils font de la conduite sur la voiture en plastique. Et ensuite, du coup, une séance où ils passent à la vraie voiture, quoi. Donc voilà, juste un petit retour de notre côté.
De mon côté,
Merci.
ce qui me gêne, c'est que ces trois séances que tu as décrites, je les enchaîne en fait dans ma session de 3 heures.
Ouais, je vois tout
Et
à fait, ouais. Ouais.
ça me pose un gros problème parce que j'ai l'impression qu'ils rentrent chez eux, ils ont fait l'action, mais ils n'ont pas adhéré à l'action.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Donc
Oui.
ça c'est une problématique que j'ai. Et je pense, c'est d'après ce que tu décris, ça a l'air d'être un petit peu aussi ton point de vue, c'est que il y a sûrement des améliorations à faire en termes de gestion du temps, de faire une préparation avant. Par exemple, envoyer, je le fais pas encore, mais c'est quelque chose qui me trotte, d'envoyer un email préparatoire qui dit repérer des domaines, essayer de faire une modification, peut-être quelque chose comme ça. Séance, mais après aussi de faire une action post-atelier ou alors de systématiser les ateliers en deux parties avec semaine 1 et 15 jours et semaine 2 ou un espacement, mais systématiser les ateliers en deux temps ou les cours en plusieurs temps. Et moi, le format que j'ai, donc je forme comment ça s'appelle, des doctorants, c'est de la formation très formation doctorale et c'est une seule fois. Ce format me pose problème. Il y a pas de on réenfonce pas le clou. On essaie d'enfoncer le clou en un seul coup et ça marche pas. Enfin, pas autant que j'aimerais.
Pour rebondir sur ce que tu dis, Hugo, je suis pas, j'ai pas la réponse. Forcément, ça peut se tester. Mon expérience, mais c'est mon expérience à moi, c'est que quand on demande des choses avant, enfin, elles sont pas toujours faites, et du coup, c'est compliqué entre guillemets, ça veut dire qu'il y a des personnes qui l'auront pas fait et que ce sera difficile de rattraper les wagons, de raccrocher les wagons pendant cette séance-là. Sauf à faire un truc qui serait beaucoup plus lourd, qui serait une version hyper light du MOOC Wikipédia, mais c'est un énorme chantier, quoi. Donc où en gros, ils auraient fait une sorte de mini MOOC. Il y a une évaluation, une première évaluation à la clé, donc on sait qu'ils ont consulté le truc. Et ensuite, ils arrivent en cours et là, ils passent en mode contribution, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, c'est extrêmement lourd. Du coup, mon opinion, c'est qu'à choisir entre les deux, du coup, l'option la plus
Je crois
légère,
qu'il y a quelqu'un qui fait
c'est
ça,
CCCD.
des tests. Je crois que c'est à l'université de Lorraine où ils ont un cours comme ça.
C'est peut-être le mien.
Non, je crois que c'est le
Alors, je
mien
t'entends
pour
mal.
le port pour les formations dans le Teladoc, pour les doctorants. Où justement il y a pour la nouvelle version, la troisième, il y a un petit temps de préparation, notamment pour la partie théorique qui est faite sur Moodle. Et ensuite, une session en présentiel de 2 heures avec justement de
Ça frise de
la.
mon côté, je vous entends pas.
Alors, désolée. Pour les autres, c'est vous avez le même problème pour m'entendre ou vous préférez peut-être que je mette le message dans le chat?
Non, j'entends bien, moi.
Donc pour les autres, ça a l'air d'aller.
Oui.
Donc désolée pour ceux qui m'entendent pas bien. Et donc du coup, j'enchaîne avec une session en. Donc la partie sur le Moodle, il y a des petits quiz pour valider voilà, qu'ils ont compris l'essentiel. Et la session en présentiel, c'est une mise en pratique sur le brouillon. Je vais les mettre aussi sur l'outil d'aide à la contribution qui est sur la page d'accueil maintenant des nouveaux inscrits. Et il y aura aussi une partie jeu avec Wikis pour bien ancrer les principes fondateurs. Donc ça, voilà, c'est la nouvelle version pour cette année que j'ai pas encore pu expérimenter.
Je ne sais pas si je peux me permettre, je sais que
Oui,
je crois qu'il y a une
vas-y,
autre question.
Alexandre.
Juste pour, enfin, du coup, j'ai oublié de préciser pour mon cours, puisque donc à la fois Hugo et ben, trois personnes différentes en parlent. Dans mon cas, c'est asynchrone. C'est pas en. Effectivement, du coup, ça ressemble au MOOC en sens large et que je donne en fait. C'est un cours équivalent 10 heures. Je donne 5 missions hebdomadaires en fait pendant 5 semaines. La seule séance, en, bon, non, il y a une séance en présentiel d'abord pour expliquer, parce que pour l'étudiant c'est quelque chose de complètement radicalement différent d'un cours habituel. C'est pas des doctorants dans mon cas, c'est plutôt des premiers cycles. Donc, du coup, c'est pas la même maturité, c'est des missions à remplir et j'utilise les vidéos de Wikimook comme des tutos YouTube en fait. Et que du coup, la question de la. Je la outsource, si vous voulez, la question de comment faire en pratique. Ils doivent regarder telle série de vidéos pour la première semaine, telle série pour la deuxième. Et j'accompagne ça d'une mission qui est en lien avec ces vidéos et qui consiste graduellement à faire des choses de plus en plus ambitieuses. Mais j'ai jamais l'ambition de créer un article. C'est toujours des améliorations d'articles. Du coup, au début, je leur demande bon, apprendre à notifier, à écrire, apprendre à sourcer. Apprendre à effectivement contribuer, même si c'est une petite contribution. Et là, c'est là où j'utilise la communauté. Entre la troisième et la quatrième mission, je demande à la communauté de voir ce qu'on fait. Bon, j'utilise le dashboard Wikiédu, qui est maintenant un outil Wikimedia. J'utilise le dashboard comment on dit, recenser. Tout ce qui se fait. Et puis voilà, bon, comme Wikipédia, c'est le premier truc que je dis, Wikipédia est complètement est une archive transparente. Donc, du coup, je les traque, évidemment, parce que je leur demande de créer un compte, évidemment. Et donc, la mission suivante, c'est d'essayer d'interagir avec la communauté, voir ce qui a été réverté, ce qui a été modifié, et qu'ils essayent de comprendre ce qu'ils ont fait, bien ou pas bien, mais de comprendre les réactions de la communauté à leur contribution. Voilà. Et dernière mission, j'essaye de leur faire améliorer un article ensemble, en commun, pour qu'ils se frottent un peu à qu'est-ce que c'est qu'essayer d'écrire à plusieurs. Voilà, c'était pour eux. Et le taux de rétention, par ailleurs, il est très très faible, hein, sur les centaines de comptes que en 6-7 ans que j'ai créés. Bon, voilà, il y en a style Ça se compte sur les doigts d'une main de Django Reinhardt, le nombre de gens qui ont effectivement continué, qui se sont pris au jeu, quoi, si vous voulez, à continuer à contribuer en dehors de ce que je leur demandais. Mais ils se sont frottés au truc.
Je vous rassure sur le taux de rétention, personne n'a trouvé la solution dans le mouvement Wikimedia ou à l'extérieur. Hein. Il est très très faible partout dans le monde, que ce soit chez Wikimedia France, Wikimedia Deutschland, la personne, même aux États-Unis. Avant de te donner la main, Eric, moi j'ai ma voisine qui souhaite intervenir. Puis après, je te passe la parole.
Oui, sur la question de comment faire à participer la communauté et comment faire un aspect plus communautaire, moi je suis à la fois sur Wikipédia et OpenStreetMap. Et ce que j'ai fait, c'est que je fais intervenir, enfin, je choisis des créneaux qui sont aussi compatibles avec des moments de convivialité communautaire. Donc, OpenStreetMap, il y a typiquement généralement de 18h à 20h le lundi et le jeudi de 10h à midi, où il y a des moments où la communauté est présente. Et donc, je fais en sorte que les personnes voient un petit peu ces lieux communautaires. Et pour Wikipédia, j'avais fait un marathon d'édition sur plusieurs jours, où il y avait 2 heures de présentation-formation. On laissait comme vous en asynchrone les gens contribuer. Mais par contre, tous les soirs, il y avait un moment communautaire. Et un des derniers soirs, je faisais ça sur le moment de l'essampage, où il y avait un certain nombre de membres de la communauté qui étaient assez influents, qui étaient présents, pour qu'ils voient un petit peu ce que c'était la communauté de Wikipédia. Donc voilà ce que j'ai testé. Et les gens étaient vraiment ravis de voir un petit peu les spécimens qui pouvaient exister aussi bien sur OpenStreetMap que sur Wikipédia. J'ai le même retour que Pierre-Yves sur le taux de rétention. Avec OpenStreetMap, c'est la même chose, 1 sur 10. Et c'est pour tout le monde la même chose. Même si on se rend compte que quand on remet plusieurs couches, généralement, les gens, la première fois, ils voient ce que c'est. La deuxième, ils tentent. La troisième, il peut y avoir 2 ans de décalage. Hein. Ben, ils s'y mettent définitivement. Et pour Wikipédia, moi, je pense qu'il y a aussi un problème d'accueil. Permettez-moi de mettre les pieds dans le plat. Le nombre de personnes qui se font mordre est absolument délirant alors qu'ils viennent de la communauté universitaire. Donc, c'est bien de vouloir accueillir des gens sur Wikipédia, mais quand on a des gens qui s'enfuient parce que les gens ne sont pas forcément très aimables ou ont une attitude, une écriture assez sèche, qui peut se comprendre, hein, quand on a ras-le-bol de voir toujours la même publication, la même autopromotion de la part des universitaires, ça peut se comprendre, mais il y a aussi une petite nuance à voir entre les deux, et là-dessus, enfin, la communauté travaille dessus. Est-ce qu'il faut que lorsqu'on fasse des ateliers de contribution, on mette un bandeau disant attention, là c'est sous tel chapeau, ne mordez pas les gens. Voilà, je ne sais pas, il y a des choses sans doute inventées, mais moi je récupère un nombre fou de personnes qui se sont fait mordre en voulant simplement contribuer sur Wikipédia et en étant universitaire.
Merci. Eric, puis après Alexandre, tu peux reprendre la main.
Merci, oui. Donc moi, je fais une initiation à Wikipédia détournée. En fait, bon, c'est dans un enseignement qui est un enseignement donné à travers toute l'université de Grenoble pour tous les niveaux de licence. Notre population va des scientifiques à des littéraires, pas beaucoup de gens de droit et d'économie, mais enfin bon, c'est très large. Et c'est un enseignement sur qui s'appelle Étoiles et planètes. Donc c'est une initiation à l'astronomie, en fait, d'une certaine façon, à l'exploration du système solaire. Et quand on a commencé cet enseignement, il y a maintenant une grosse dizaine d'années, on faisait faire un mémoire aux étudiants par groupe de trois ou quatre. Et donc c'était écrit. Et puis il y a une année, j'ai proposé qu'on mette ça dans l'environnement de Wikipédia en utilisant les pages d'ébauche. Et il y a eu un très bon retour à ce moment-là des étudiants à qui j'en avais parlé. Et donc on a décidé de faire ça l'année suivante. Et en fait, à partir du moment où c'est devenu obligatoire, ça a beaucoup moins marché. Les étudiants avaient toujours de bonnes excuses pour rendre en retard. Si en fait, c'est sur un semestre, donc ça commençait dès le premier cours, hein, où je les mettais en quadrinôme, en l'occurrence. Et ensuite, ils devaient trouver un sujet. Au départ, c'était tout objet pour lequel il y a suffisamment de documentation. Et puis, en fait, ils se paumaient. Donc, j'ai restreint très fortement à des objets uniquement sur la planète Mars. Et une première base de documentation bibliographique que je leur donnais. Et puis, c'est parti. Et donc, ce qui fait que j'avais, en gros, on a entre 50 et 80 étudiants, donc divisé par 4, ça fait entre une douzaine et une vingtaine de projets chaque année, chaque semestre, pardon. Mais surtout, la particularité, c'est que je n'ai pas de temps dédié pour l'apprentissage de Wikipédia. Donc, au départ, je les ai lancés dans la réflexion et pendant ce temps-là, je préparais en arrière des diapositives et je leur confie donc un diaporama avec des tas d'exemples de quoi faire, comment s'organiser. Il y a beaucoup de travail en organisation parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de travailler en collaboratif hétérogène. Ah oui, j'impose aussi que les quadrinomes soient hétérogènes pour pas qu'il y ait de redondance entre les étudiants et qui bénéficient des compétences variées. Et puis donc, grosso modo, au bout de 4 semaines, une fois qu'ils ont créé leur compte sur Wikipédia, ils commencent dans une page d'ébauche à mettre leur première référence et puis ensuite progressivement un début de plan. En fait, on ne va jamais jusqu'au bout et je n'ai jamais eu d'ébauche qui, au bout de... Alors, le semestre universitaire durant seulement 3 mois et demi, c'est vraiment très très court, c'est 11 séances et un peu plus de semaines, et donc il y a jamais rien de suffisamment satisfaisant parce qu'il faut toujours reprendre beaucoup derrière, mais néanmoins ça a servi. Par ailleurs, il y a eu des articles, on m'a demandé de les récupérer comme point de démarrage. Par contre, pareil, le niveau de rétention. Alors, les premières années, comme c'était nouveau, il y a eu de la rétention et j'avais entre 10%, 10-15% d'étudiants qui y sont retournés après, puisque j'avais leur pseudo, j'ai pu les voir. Quelques-uns sont restés, mais vraiment, comme je dis, c'est quelques-uns ou deux, et c'est tout. Et actuellement, ça ne fonctionne plus à un point tel que je ne mets plus en avant que c'est une initiation à Wikipédia. Je mets en avant que c'est une initiation au travail collaboratif de synthèse bibliographique. Et que l'on fait ça dans un environnement particulier qu'ils connaissent bien, mais qu'ils n'ont jamais pratiqué en écriture. Et donc, c'est là qu'arrive Wikipédia versant page d'ébauche, car j'ai été obligé d'interdire qu'ils aillent sur Wikipédia, parce que bien sûr, il y en a toujours quelques-uns qui sont plus malins que les autres et qui ont plutôt fait qui m'ont plus créé des soucis que l'inverse. Voilà un peu la chose.
Merci Eric. Alexandre?
Oui, enfin, j'ai deux choses pour rebondir sur ce qu'a dit Eric et puis aussi la personne qui est avec toi. C'est très clair que la question de mordre les nouveaux, ça fait partie de ce qu'est la communauté Wikipédienne aussi, hein, même si c'est quelque chose que c'est un problème à laquelle la communauté Wikipédienne réfléchit depuis des décennies maintenant. Comment dire, pour moi, ça fait partie de ma pédagogie au sens où, et j'ai oublié de dire, je fais aussi une deuxième séance en présentiel vers la fin, qui est une séance de soutien psychologique, en fait, parce que c'est pas de la tarte, mais c'est vrai aussi dans l'autre sens. Hein. C'est pas de la tarte. Les étudiants ne sont pas préparés psychologiquement à ce qu'ils aiment, parce que quand je dis c'est un monde différent, ce n'est pas non plus un monde de Walt Disney, Wikipédia. Et je mets encore plus les pieds dans le plat. Du coup, c'est évidemment encore moins facile. C'est déjà encore moins facile de pénétrer la communauté Wikipédia si vous êtes lié à l'université, que ce soit étudiant ou enseignant. C'est deux mondes qui... ont du mal à se comprendre depuis 20 ans. Pour l'université Wikipédia, comme pour les médias, c'est moins le cas, c'est de moins en moins le cas. C'est rentré dans les murs, mais il y a un côté, c'est une remise en cause de l'autorité. Dans l'autre sens, être universitaire, il y a toujours une méfiance concernant la question de l'autopromotion. Et cette question, c'est justifié. Je veux dire, le nombre de collègues qui écrivent leur propre page Wikipédia, il y en a beaucoup. Et il y a pire que ça. C'est que la communauté, là je mets les pieds dans le plat, elle est blanche et homme. Et donc si vous êtes en plus une femme et en plus pas blanc, c'est encore plus dur. Et moi, j'ai pas mal d'étudiants, comme c'est, comment dire, bon, voilà, qui, donc, pour beaucoup, viennent du bled, quoi, si vous voulez, et qu'il y a un côté, on voit. Dans la question des sources pour un historien, qu'est-ce que c'est qu'une source selon Wikipédia? Pour un historien, c'est hyper intéressant. C'est ce que j'avais essayé de dire dans ma vidéo sur Philippe Roth, pour ceux qui l'ont vu. Mais la presse africaine, par exemple, ne serait-ce que son ton, sa façon d'écrire, elle est pour être considérée comme légitime à l'intérieur de la communauté wikipédienne, c'est pas de la tarte. Et donc, si vous êtes un étudiant sénégalais qui contribue sur le Parlement sénégalais en citant des sources de la presse sénégalaise, j'ai un autre exemple du Tchad, je veux dire, c'est comment ces gens, comment c'est traité par la communauté, c'est vraiment pas de la tarte. En même temps, de l'autre côté, pour pas comment dire noircir le tableau, c'est pas facile pour la communauté wikipédienne de traiter des gens qui n'y connaissent rien, qui écrivent un article sur leur voiture tunée. C'est un cas extrême, hein, mais j'ai un étudiant qui a écrit un article sur sa voiture, quoi, et qu'il avait tunée. Je veux dire, il y a un côté, la communauté peut en avoir marre d'avoir à gérer ce genre de délire. Bref, dans les deux sens, c'est pas facile. Et donc, pédagogiquement, c'est un peu dur, mais essayer de faire en sorte que les étudiants comprennent ce qui leur arrive, bon, c'est ça le. Pour moi, mon principal objectif pédagogique. Et pour répondre aussi à Eric, par ailleurs, tous les cours que je fais, il n'y en a aucun qui a Wikipédia dans le titre. D'un point de vue des maquettes pédagogiques, personne. Tout ce que je peux faire, c'est déguiser les cours de communication scientifique, méthodologie scientifique, pour subrepticement introduire ce que je veux faire vraiment. Je ne sais pas si vous avez. Dernière anecdote à propos de mes vidéos anecdotes, c'est que elles ont été réalisées très gentiment à Metz par les gens de l'audiovisuel de l'Université de Lorraine. Il n'y a pas une seule fois marqué l'Université de Lorraine sur la vidéo. Ils n'ont pas voulu, tellement ils ont honte qu'un universitaire fasse des vidéos sur Wikipédia. Donc il y a un côté, c'est un sujet, bon, faut pas exagérer, comment dire, c'est plus. Comment dire, par rapport à il y a 10 ans, c'est plus la même chose, mais quand même, il y a un côté, il y a un sujet, c'est un sujet dont l'université a honte dans certaines sphères.
Merci Alexandre. Oui, j'ai dans le chat, j'ai mis le lien vers tes vidéos. Je vous invite à les regarder. C'est très intéressant d'aborder le Wikipédia par le biais des anecdotes. C'est vrai que par moment, même les Wikipédiens hein, dont je fais partie, on est peut-être un peu trop classique dans la façon de former à Wikipédia. Hein. On essaye de former tous les lecteurs à devenir contributeurs. On leur demande de rédiger un article et on mythifie un peu l'encyclopédie. On l'appelle encore encyclopédie, alors que de nos jours, on devrait juste l'appeler Wikipédia. Hein. C'est un corpus vraiment à part, qui ressemble certes à un projet encyclopédique. Mais voilà. Et donc, je trouve cette approche par les anecdotes qui aborde des questions très importantes. Hein. Je me souviens de la vidéo sur le singe, l'affaire du singe, qui aborde pas mal de questions de droit d'auteur. Est-ce qu'un animal peut avoir un droit d'auteur? Spoiler, la réponse est non pour l'instant. Mais la question est à nouveau d'actualité avec ChatGPT, parce que du coup, se pose la question, est-ce qu'un robot peut avoir un droit d'auteur? Donc, a priori, non. Après, il y a peut-être une faille, à savoir, il y a quand même des humains derrière le robot. Donc, voilà, la question n'est pas si simple chez les spécialistes en droit d'auteur. Mais donc, est-ce qu'il y a d'autres... d'autres intervenants là-dessus sur voilà, montrer Wikipédia par des exemples, par des anecdotes, peut-être démythifier le. Je sais que moi, pour bon, ça commence à dater, mais je rappelais ce matin en intervention devant des étudiants que quand j'ai commencé à contribuer à Wikipédia en 2004, donc j'étais en train de rédiger mon mémoire de DEA pour aller en thèse, je me sentais pas légitime, je commençais à rédiger, à m'intéresser aux articles d'économie de Wikipédia, donc c'était ma formation, je pensais ne pas avoir assez de diplômes, et donc je laissais en page de discussion en fait mes commentaires. Bon, assez vite, j'ai réalisé que j'étais quand même plus diplômé, et déjà un des rares diplômés en économie qui modifie les articles, et donc j'ai osé franchir le pas. Et c'est vrai que ça peut faire peur encore, même de nos jours, j'ai l'impression que beaucoup n'osent pas, parce qu'on appelle le site encyclopédie, et que ça peut faire peur, et que ça nécessite aussi, il y a une grosse barrière à l'écrit aussi, on l'évoque pas, hein. Mais c'est vrai que contrairement à d'autres plateformes, notamment les plateformes vidéo, qui permettent une expression peut-être un peu plus simple, mais ça demande beaucoup de maîtrise, hein, de faire des belles vidéos sur TikTok ou sur YouTube, mais c'est vrai que Wikipédia impose une barrière à l'écrit quand même et un niveau de langue assez élevé. On le voit notamment avec certaines personnes qui arrivent et qui ne maîtrisent pas forcément totalement le français, l'accueil se passe plutôt mal.
Si je peux me permettre, moi je trouve que, en tant qu'historien des sciences, cette fois, je trouve que renoncer à appeler Wikipédia encyclopédie, ça serait quelque sorte se tirer une balle dans le pied, parce que la délégitimation de. Ça remplit, je ne suis pas spécialiste, un historien d'encyclopédie, mais ça remplit toutes les conditions sur grosso modo ce que dans l'histoire on a appelé une encyclopédie et bien plus encore. Voilà, c'est une entreprise de production de connaissances secondaires. Ah, c'est ça une encyclopédie, quoi. Maintenant, quelle vision du monde il y a derrière cette encyclopédie, voilà. Est-ce que la somme de tout de volume and knowledge, c'est quelque chose qui est même juste comment dire envisageable au point de vue de la. Bah, comment dire, pour un historien des sciences, ça laisse penser qu'il y aurait une vision cumulative du savoir, quoi. Mais ça, là, je laisse ces questions-là épistémiques de côté, mais il y a aussi sociologiquement, bah, la société Wikipédia, elle se construit méritocratiquement par le nombre d'élites, et que c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de contribuer pour lier à tes considérations sur comment oser. Voilà, un compte qui a deux ou trois contributions par rapport à un compte qui en a 3 000, et genre, il pèse moins dans les discussions, pas d'un point de vue arithmétique, mais parce que la sociologie wikipédienne marche comme ça, quoi, et que de ce point de vue-là, moi j'ai compris que si je voulais, en tant qu'universitaire, si je voulais dépasser la méfiance et compréhensible envers les universitaires, il fallait que je sois un vrai Wikipédia, c'est-à-dire avoir un nombre d'édits qui ne soit pas. Tout simplement pour pouvoir dialoguer avec des détails. Ça a l'air horrible de dire ça, comme s'il y avait une hiérarchie. Personne dans Wikipédia va admettre qu'il y a une hiérarchie méritocratique par le nombre d'édits. Mais bon, voilà, sociologiquement, c'est un peu ça quand même, quoi. Et donc, acquérir de la légitimité, c'est, pour pouvoir acquérir de la légitimité dans le monde de Wikipédia, il faut d'abord comprendre comment le monde de Wikipédia marche. Et ça, aux étudiantes et aux étudiants, c'est quelque chose que je dis. Vous êtes des noobs. Vous êtes comme quelqu'un qui débarque dans une fête et qui ne sait pas trop comment ce qu'il faut faire, si on a le droit de servir du punch direct ou pas. C'est ce genre de considération, hein, en fait. Qu'est-ce que c'est que débarquer dans un monde qu'on ne connaît pas, en fait? Et il y a des gens qui vont vous taper sur les doigts si vous servez du punch tout de suite.
Sébastien, tu voulais intervenir?
Ouais, alors je suis complètement d'accord et c'est vrai que c'est un biais dont on parle assez peu, mais qui est effectivement est que bah, au final, les gens, enfin, tous les hommes sont égaux dans Wikipédia, mais comme disait quelqu'un de Bordeaux il y a quelques siècles, il y en a certains qui sont un peu plus égaux que les autres, quoi, voilà. Mais c'est une des raisons pour lesquelles. Alors, c'est pas une solution, puisque c'est un problème en fait de fond qu'on ne peut pas régler de manière simple, hein. À partir du moment où on a peu de contributions, on est considéré comme un noob enfin, entre guillemets, il n'y a pas de meilleur. On ne peut pas faire autrement. Mais ce que je dis souvent, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles, quand je fais de la contribution, je muscle vraiment la partie source. Parce qu'en général, ce que je leur dis, c'est la qualité des sources, c'est ce qui compense, entre guillemets, le fait que vous soyez un noob parce que vous avez un argumentaire qui est inattaquable, quoi. Et dans les faits, c'est une des raisons pour lesquelles, pour moi, pour des enseignants qui pourraient se poser cette question, justement, parce qu'ils sont nouveaux sur Wikipédia, j'aurais tendance à dire, mais c'est une question ouverte, hein, que je lance comme ça, je réfléchis tout haut, mais c'est de dire, bah, en fait, comme vous êtes enseignant sur cette discipline, vous avez une connaissance experte des sources de qualité. Et donc, du coup, forcément, vous pèserez par définition dans le choix des sources et l'enrichissement éditorial d'un article, vous aurez plus de poids parce que vous aurez une maîtrise des sources, quoi. Mais c'est voilà, c'est un peu naïf, mais je pense quand même que ça peut aider, quoi. Mais après, et j'arrête mon monologue, mais le revers de la médaille, c'est que pour parler des sources, il faut quand même à disposer pas de 10 heures, mais d'un petit peu de temps quand même, parce que ça s'acquiert pas tout seul. D'un autre côté, on est amené à parler des sources dans les cursus universitaires. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment un enjeu de, j'allais dire, de. C'est comme s'il y avait un enjeu d'intégration, en fait, au sens presque informatique du terme, d'intégration de ces problématiques-là aux endroits où, dans les cursus pédagogiques, on en parle aux étudiants, quoi. Puisque finalement, Wikipédia, c'est un outil immersif pour les aborder, ces problématiques-là. Et on parle de toute façon. Pardon, allez-y, Alexandre.
D'où le rôle central du bibliothécaire.
Oui, parce qu'effectivement, on est amené naturellement à parler de cette problématique de source dans les formations.
Ce matin, on intervenait devant des étudiants Master 1. On a pris une approche un peu différente. On a essayé de montrer un peu l'envers du décor et toutes les questions que se posent les rédacteurs d'un article Wikipédia, que ce soit en termes d'illustration, comment, d'où elles viennent, quels sont les défis auxquels on est confronté, leur montrer un peu toute la normalisation. En fait, les articles Wikipédia sont très typés, en tout cas au sein d'une version linguistique donnée. Ils ont tous la même gueule, pour faire simple, où trouver les sources, et ainsi de suite. Alors, ils ne viendront sans doute pas rédacteurs, mais au moins peut-être des lecteurs un peu plus avertis des forces et des limites de Wikipédia, et puis du reste de ce qui se trouve sur Internet. Donc, à voir. Et puis après, en deuxième partie de l'atelier, enfin du cours, c'était un cours de 2 heures, on a quand même eu le temps de les faire travailler en groupe. En fait, il y avait un sujet unique pour toute la classe, et chaque groupe se répartissait l'article. Donc, il y a eu un groupe résumé introductif, un groupe biographie, l'autre travaux et l'autre biblio. Et le résultat était plutôt pas mal, hein. Il y a peut-être moyen de publier l'article. Et ça semblait les intéresser, voilà, dans un format très très bref, hein, de 2 heures, une formation et un peu un atelier pratique. Ils ont pu se poser des questions un peu que se posent les Wikipédiens et les Wikipédiennes. Finalement, ils voient un peu l'envers du décor et comment se construisent ces articles.
La seule limite que je dirais, c'est qu'on avait travaillé sur un pack collaboratif et que l'aspect collaboratif, ils ont du mal. Les groupes restaient entre eux, alors qu'ils étaient vraiment côte à côte, hein. Ils étaient une table à côté, mais se retourner pour discuter avec l'autre groupe, alors on travaille sur un même article, hein. Ils ont eu du mal. Et j'avais beau leur dire, passer en train de discuter avec l'autre groupe, ça se faisait pas. Donc, ils étaient sur le même pad collaboratif en Formapad, ils étaient sur la même personne à travailler, ils partageaient des sources, et pourtant, ils n'arrivaient pas à discuter.
Oui, Alexandre.
Oui, bah, de ce point de vue, voilà, je pense quelque chose qui est radicalement différent du reste au point de vue des cours de Wikipédia, c'est que ouais, qui est vraiment radicalement d'une vision de l'enseignement, comment dire, bicentenaire, c'est que le collaborer, c'est pas naturel, quoi. En particulier, au-delà de ça, copier-coller est un tabou. C'est-à-dire que voilà, qu'on demande aux étudiants de. C'est comme si c'était commettre le péché ultime, alors que dans le monde de Wikipédia, copier-coller, c'est quelque chose de parfaitement légitime. Si le copiage et le collage viennent de selon la licence du texte en question. La question, voilà, c'est pour ça que je fais mon introduction au début sur c'est la question du logiciel libre qui m'intéresse. Évidemment, la licence de Wikipédia, c'est quelque chose de fondamentalement politique et lié à ce monde-là, et que il y a, comment dire, c'est super dur de faire comprendre aux étudiants la notion de compulsion. Mais en miroir de ça, c'est super dur et à la fois mais vraiment radicalement je sais pas, subversif, quoi, de leur dire que vous avez le droit de copier-coller. Vous avez le droit de copier-coller quelque chose qui vient d'un texte sous licence libre. Vous n'avez pas besoin de faire un TI, quoi, un comment on dit, original research. Travail inédit.
Travail inédit.
Et qui est exactement le contraire de ce qu'on leur dit dans tous les autres cours, et qu'il y a quelque chose de ouf là-dedans. C'est là où le monde est vraiment différent. Si le monde était, tout le monde était sous licence libre, mais il n'y aurait que des copier-coller dans Wikipédia, et ça ferait une encyclopédie qui serait bien meilleure. Et c'est lié au travail collaboratif, parce que ça veut dire essayer de briser un tabou, quoi, mais en fait se rendre compte, mais on a le droit de, si l'article de Wikipédia en anglais il est meilleur que celui de la Wikipédia en français, on a le droit en fait de le, bon, il faut le traduire par contre, mais on a le droit de copier un texte dans l'encyclopédie Wikipédia. C'est un truc que les étudiants, ça les choque, voilà, je comment dire, et même à l'intérieur de Wikipédia, c'est quelque chose qui choque. Et c'est ça que je trouve le plus ouf, c'est que, puisque Pierre-Yves parlait de science wikifiée et qu'est-ce que ça pourrait être la science wikifiée, il y a quelque chose de complètement ouf dans le monde de la science ouverte, c'est que de plus en plus de publications scientifiques sont sous licence CC BY, vu, comment dire, l'encouragement qu'il y a à publier ouvert. Et qu'est-ce que c'est qu'une licence CC BY? Ça veut dire des textes qui sont parfaitement copiables, collables dans Wikipédia. Bon, encore faut-il que ce soit pertinent, hein, évidemment, mais il y a quelque chose de... Et c'est là où la différence entre la science et Wikipédia, c'est que la question de l'auteur, c'est ça qui fait la différence. Je veux dire, la science Wikipédia, ça ne marcherait pas, parce que tout simplement, être l'auteur de quelque chose en science est hyper important. C'est ça qui fait que vous êtes le premier à avoir écrit, c'est ça qui fait votre carrière. Mais par contre, dans Wikipédia, récupérer un texte sous licence libre et le mettre dans Wikipédia, j'ai essayé de le faire. La première fois où j'ai réussi à écrire un article sous licence CC BY, c'était en 2018, comment dire, je l'ai fait avec mon article, du coup il y a un côté un peu auto-promotionnel, donc je ne vais pas le refaire 10 fois, mais le transposer l'article que j'ai écrit, l'article de publication scientifique, direct dans un article de Wikipédia, c'est quelque chose qui c'était la Wikipédia en anglais, hein, si vous regardez la page de discussion de l'article en question, il y a une incompréhension qu'est-ce que j'étais en train de faire et qu'est-ce que c'était que le plagiat, le copier-coller, etc. Voilà, je m'arrête là, mais il y a vraiment quelque chose de radicalement différent dans Wikipédia qu'on pourrait faire toucher du doigt non seulement aux étudiants, mais à tout le monde, mais qui est vraiment différent du monde universitaire, quoi.
Merci Alexandre. Sébastien, tu voulais réagir?
Juste pour dire que j'étais complètement d'accord et que justement on réfléchit dans les choses sur lesquelles on réfléchit à Wikipédia comme outil pédagogique, il y a aussi tout ce qui tourne autour de la formation autour du plagiat en fait aux étudiants, où typiquement bah, dans Wikipédia on a les mêmes codes, c'est-à-dire que quand on cite quelque chose, on indique d'où ça vient et c'est grosso modo la formation pour le plagiat résumée en deux phrases, quoi. Donc, du coup, effectivement, il y a ça. Et plus généralement, on a dans le viseur tout ce qui tourne autour des formations, autour de l'intégrité scientifique, où on essaye, sur le temps long, parce que ça va prendre du temps, mais d'essayer d'ajouter des signaux faibles envers les personnes qui, voilà, qui coordonnent ces formations pour dire que Wikipédia est un bon environnement, un bon outil pour comprendre ces problématiques.
Je vais compléter ta liste d'anecdotes. Ça m'a fait penser quand vous évoquiez le problème de collaboratif. Wikimedia France avait été contacté il y a quelques années par une grande entreprise française, une très grande entreprise française, qui déplore un peu le manque de collaboration de ses équipes et qui voyait dans Wikimedia France, dans Wikipédia, un peu point fort. Et je suis intervenu durant leur week-end de, je ne sais pas quoi, de séminaire. Enfin, donc il y avait quelqu'un qui venait du monde des startups et il y avait moi. On leur a inculqué un peu ça, c'était un peu surréaliste. Et sinon, dans le chat, j'ai aussi fourni enfin, le calendrier des prochains Wikicafés. N'oubliez pas la date, notamment le 21 novembre, on aura un premier retour de la grosse enquête, la nouvelle grosse enquête de l'équipe Marsouin et d'autres chercheurs en France qui s'intéressent à Wikipédia. Donc, ça abordera les usages de Wikipédia du côté lecteur et rédacteur, il me semble. Mais ça sera les premiers résultats, en tout cas, elle vient juste d'être terminée. Donc voilà, il va falloir quand même attendre quelques mois avant d'avoir tous les résultats, mais il devrait y avoir une première publication, je pense, prochainement. Et effectivement, on a une autre enquête, alors là, plutôt à destination de ceux qui ont un compte, hein, qui contribuent à Wikimedia actuellement. Il y a même un bandeau qui s'affiche sur vos écrans, si vous connectez à Wikipédia ou Wikidata, en tout cas si vous avez une adresse IP française, que ce soit métropole ou outre-mer, et je crois que j'ai laissé passer une petite coquille, il doit y avoir Saint-Marin aussi, je ne sais pas s'il y a des Wikipédiens à Saint-Marin qui ont une adresse IP là-bas. Donc voilà, on souhaite en fait mieux savoir un peu le niveau en termes de sciences ouvertes et des Wikimédiens, puis aussi le vocabulaire, qu'est-ce qu'ils utilisent. A priori, on n'utilise pas les concepts de sciences ouvertes, on utilise d'autres termes, et aussi, du coup, plus largement, faire un point sur la recherche documentaire, qu'est-ce qui est utilisé, est-ce que les Wikipédiens vont en bibliothèque universitaire, en bibliothèque municipale, ou plutôt, ils vont plutôt sur Sci-Hub, est-ce qu'ils utilisent la Wikipédia Library, donc la Fondation a sa propre bibliothèque, on se fait offrir des accès. Des grandes revues qui coûtent très cher. Voilà, ça permettra de faire un point sur un domaine finalement qui est peu étudié, à mon avis. En tout cas, en langue française, globalement, il y a peu de recherches de toute façon sur la Wikipédia francophone. Mais même sur la Wikipédia anglophone, je crois que ce n'est pas tout ce travail de source. Hein, c'est un peu l'expertise wikipédienne. Hein, c'est la recherche de sources, la sélection de sources. C'est vraiment là où les Wikipédiens apportent quelque chose. Leur expertise et ce travail est finalement peu étudié et voir comment on peut y répondre dans le cadre des résidences. L'idée, c'est après coup, enfin, ça sera la prochaine vague de résidents hein, pour 2024, voir s'il faut faire des formations, voir s'il faut améliorer la communication au niveau de la science ouverte et tout le volet sciences et société qui pour l'instant ne cible pas trop les Wikipédiens. Voilà, ça permettra, j'espère, d'y voir plus clair, même si j'ai d'ores et déjà vu qu'il y avait une question, notamment qui était mal posée. malgré toutes les relectures, et puis comme le questionnaire n'a pas arrêté de changer au fil des relectures, évidemment, j'ai laissé passer des erreurs. Mais il marche bien, hein. Ce matin, il y avait déjà 115 réponses. C'est l'avantage, les Wikipédiens aiment bien répondre aux questionnaires. Ils ne font pas comme moi. Moi, je sature et je me suis fixé comme quota de répondre à un questionnaire par an maintenant, et notamment parce que dès qu'on est identifié par la fondation, on reçoit beaucoup de demandes de questionnaires qui ne sont pas très intéressantes. Et puis, il y a aussi les étudiants qui font leur mémoire de maîtrise, qui veulent faire des interviews. Mais voilà, je me doutais que les Wikipédiens allaient répondre à notre questionnaire. Et donc, c'est très bien. Il devrait fonctionner. Il est encore ouvert jusque pendant un mois, en fait. Voilà, le bandeau pour inviter à remplir le questionnaire est affiché pendant 15 jours, les 15 prochains jours. Parce que notamment, la semaine prochaine, c'est la semaine de la science ouverte. Non, enfin, la semaine de l'open access au niveau international. Et voilà, le questionnaire prendra fin le 15 novembre, ce qui nous permettra de dépouiller les résultats parce qu'on approche de la fin de nos résidences, en tout cas la première génération, hein, nous qui avons commencé en février 2023. Voilà, on va s'arrêter en février 2024. Mais rassurez-vous, il y aura d'ores et déjà de nouvelles résidences. Je ne peux pas encore annoncer les villes, elles sont quasiment sélectionnées, mais voilà, c'est pas à moi de l'annoncer. Mais donc voilà, vous aurez des homologues au sein des universités en 2024. Et puis de toute façon, nous, les résidents 2023, on essaye aussi de prolonger un peu nos résidences de quelques mois. Donc, est-ce que quelqu'un voulait intervenir pour la fin? Ok, 14h10. Non, c'est bon.
Ouais, bah, enfin, merci d'avoir donné l'occasion de faire ça, parce que moi, ouais, c'est un sujet que j'aime bien parler, c'est sûr, parce que bon, comme vous avez remarqué, c'est pas si facile que ça, enseigner Wikipédia à l'université pour plein de raisons, mais il y a un côté vraiment, vraiment radical, en fait, au point de vue de qu'est-ce que c'est que enseigner à l'université, et qu'est-ce que ça peut, bah, ouais. Bah, redire tout, mais bah, donc du coup, c'est merci de donner l'occasion de dire ça, quoi.
Bah, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Hein. C'est cet été, je crois que j'avais contacté les intervenants de cet automne. Et je pense qu'au final, ça a été un très bon outil café très intéressant autour de les projets pédagogiques qui demanderait peut-être à être plus présent peut-être dans les résidences 2024, à voir sous quelle forme. C'est vrai qu'on n'intervient pas trop vers les étudiants. On commence à partir de doctorants, comme l'a rappelé Hugo, mais sinon, c'est vrai qu'on ne cherche pas à aller vers le public qui est plutôt habituel, qui est déjà formé par les universitaires. On va vers les publics plus difficiles, entre guillemets. Hein, je ne qualifie pas les enseignants-chercheurs de public difficile, mais voilà, il y a quand même des aspects... pratico-pratique, le fait de manquer du temps qui fait que c'est difficile de trouver une heure de contribution, même de formation. Hein. Dès que j'aborde la question de la formation, même sans parler de format de 6 heures, même 3 heures, ça fait peur à beaucoup d'enseignants-chercheurs. Donc voilà, se posera la question peut-être ouais, de réintégrer peut-être le public étudiant. Et les projets pédagogiques, parce que c'est quand même une bonne partie du rôle des universités. Et donc, ça simplifiera et ça permettra peut-être d'impliquer un peu plus le reste de la communauté universitaire dans ce projet avec le ministère. À voir. C'est mieux. Encore quelques mois pour faire le bilan de cette année, déjà terminer nos actions, et après de faire le bilan.
Merci.
Merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une bonne après-midi. Toutes et tous. Et rendez-vous bientôt. Toutes nos actions, n'hésitez pas à aller sur Wikifier la science, voir tout notre beau programme. Allez, à plus tout le monde.
À plus.